Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur, et c'est notre prière qui s'élève à cette heure. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Non, Seigneur, ce n'est pas moi qui veux décider pour moi-même, pour ma vie, pour mon avenir, pour ce que je vais faire, où aller, que dire. Non, Seigneur, mais c'est toi. Toi, que, lorsque tu règnes en moi, alors tu peux faire à travers moi ce que tu veux. Et ce que tu veux est toujours bon, est toujours juste, est toujours droit, est toujours lumière, est toujours vérité, est toujours justice. Seigneur, que je sois, que nous soyons à ton image. Seigneur, règne en moi, tu es notre refuge. Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir trouver un refuge en toi. Nous avons besoin de refuge, nous avons besoin d'un abri pour nous y cacher et, Seigneur, retrouver la paix. La paix. Oh, la paix, Seigneur! C'est ça que nous voulons et c'est ça que nous cherchons. Une paix que personne ne peut enlever, que personne ne peut ôter. Père Céleste, inonde ta paix tes enfants et qu'ils sachent trouver en toi le refuge, l'abri, la protection, le calme, la tranquillité, le repos. Seigneur, en toi se trouvent toutes ces choses-là, des choses que l'on ne trouve plus sur cette terre, des choses que l'on ne trouve plus aujourd'hui, Seigneur, à cause de la dureté du cœur de l'homme, à cause du péché, à cause des violences, à cause de tout ce qui se passe dans notre génération et dans notre nation. Père Céleste, nous avons besoin de nous réfugier en toi, Seigneur, de nous cacher en toi. Et retrouver le calme et la confiance, le repos, la paix et la joie. Car en toi, Seigneur, nous avons tout pleinement et tu es le Dieu qui dispense ses richesses sans mesure sur ceux qui te craignent et qui marchent avec toi. Règne en moi, Seigneur, et que toi, Seigneur, mon Dieu, tu sois le maître de nos vies et que tu prennes possession de toutes nos vies, de tout ce que nous connaissons et de tout ce que nous ne connaissons pas. Car tu connais chacun de nous, Seigneur, bien mieux que nous-mêmes. Tu connais notre jour de venue dans ce monde et tu connais notre jour de départ. Seigneur, mon Dieu, règne, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Je ne sais pas avec quel sentiment vous venez en ce dimanche matin ici à l'église pour adorer le Seigneur. Mais quant à moi, mon cœur rempli de tristesse, d'amertume et de larmes. À cause de tout ce qui se passe autour de nous, dans notre pays et dans notre monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous ne pouvons que être saisis au très fond de nous-mêmes. Lorsque nous regardons et nous considérons ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui et dans notre monde, que saisis par une tristesse et qui nous empêche d'être légers, inconsidérés, qui nous empêche de nous amuser, entre guillemets. La réalité qui nous entoure est une réalité bien trop triste et trop pénible pour pouvoir être passé par-dessus comme étant peu de choses. Trop de souffrances, trop de larmes, trop de violences, trop de sang versé, trop de péchés, trop de mensonges, trop de vols, trop d'égoïsme, trop d'infidélité, trop de guerre, trop de manipulation, trop de maladies, trop de ruines. Voilà où nous en sommes. Quels sont les sentiments qui envahissent vos cœurs après cette semaine qui vient de passer. Je me souviens que dimanche dernier, je portais un lourd fardeau dans mon cœur, et bien des fois, je vous ai parlé, je vous ai dit que j'avais plutôt envie de pleurer que de rire, et qu'il n'était pas le temps actuellement de s'amuser et de rire ou de plaisanter dans la maison de Dieu, qu'il était plutôt temps de vouloir s'humilier et de pleurer devant Dieu et de lui demander pardon et de s'abaisser devant lui, qu'il était plutôt temps de réfléchir et d'arrêter d'être léger à des plaisantins qui ne font rien pour apporter une solution à notre génération. Et voici, une semaine a passé, et pendant cette semaine, que de nouveaux bouleversements, que de déchirements, que de peur. Je me posais la question, mais que vais-je dire? Je ne peux pas passer sous silence ce qui vient de se passer dans notre pays. Que suis-je autorisé à dire? Tant de pensées se croisent et se précipitent dans l'esprit, et on demeure perplexe. Et pourtant, je sais que j'ai le droit de parler, car je suis un homme tel que vous autres, et nous sommes tous faits de la même nature. Nous sommes faits tous de la même nature, et nous vivons dans la même société. Et il n'y a aucune différence entre nous. Pleurez avec ceux qui pleurent. Lamentez-vous avec ceux qui se lamentent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais il y a plus pour pleurer aujourd'hui que pour se réjouir. Plus, tant de violences, tant de crimes, tant de choses qui jettent le désarroi, le déséquilibre, le désespoir. Tant de manifestations d'égoïsme et de cupidité, entouré de mensonges dans notre société d'aujourd'hui. Que pensons-nous récolter avec toutes ces choses? Bien sûr, nous sommes tous choqués par le départ si subit d'un homme qui était à la tête de notre pays. Nous sommes comme réveillés subitement devant une violence que personne ne peut approuver, que personne ne peut regarder à la légère. Et tout en même temps, en déplorant ces violences et ce sang versé, nous ne pouvons pas ne pas penser à celui qui meurt aujourd'hui encore, ce matin peut-être, hier encore, qui meurt quelque part, inconnu, laissé, oublié par tous. Peut-être un petit soldat quelque part, peut-être un innocent chassé de son village, peut-être une mère avec son enfant dans les bras, peut-être un petit cadavre laissé là pour compte, quelque part dans quelque trou, dans quelque forêt, peut-être des cadavres jetés au fond de trous dans une fosse commune qu'on enterre et qu'on oublie, mais qui ne sont pas oubliés par Dieu, car Dieu souffre de voir l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Frères et sœurs, nous devrions tous pleurer et gémir devant Dieu, crier à lui et nous abaisser en demandant pardon à Dieu à cause du péché qui nous a saisis, à cause des haines qui sont dans nos cœurs, à cause des joies que nous avons pour la destruction de celui-ci ou de celui-là, ennemi tel qu'il est, ou que sais-je encore, alors que nous sommes tous faits de la même façon, alors que nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, alors que nous sommes tous de la même nature, formés de la poussière de la terre, qui n'avons aucun d'entre nous demandé de venir dans le monde, mais qui sommes là parce que telle était la chose, par la volonté de nos parents. Et puis, qui ne savons le jour de notre départ. Comment partirons-nous? Allons-nous apprendre une leçon enfin? Allons-nous penser que les malheurs qui se passent quelque part ailleurs dans le monde ne nous concernent pas parce que c'est loin de chez nous, c'est loin de nous? Allons-nous penser à ce comme cela? Eh bien, nous sommes des insensés si nous pensons comme cela, frères et sœurs. Quand c'est que nous allons apprendre? Quand allons-nous apprendre? Est-ce que nous pleurons pour la souffrance des autres? Nous pensons que ça ne nous concerne pas. Mon cœur était serré au-dedans de moi lorsque j'ai vu à travers la télévision ces milliers et ces milliers et millions de personnes aux Indes qui s'en vont, et qui s'en vont tous ces hindouistes et ces brahmanes et tout cela, et complètement nus, je pense que vous les avez vus, complètement nus et qui s'en vont ainsi au bord du Gange pour se laver, pour ôter leurs péchés. Empreinte d'occultisme, lorsque certaines étoiles et signes du zodiaque arrivent ensemble à tel moment, etc., c'est le moment propice pour aller se jeter dans le Gange et pour avoir ses péchés effacés et enlevés. Et ils sont là couverts de cendres, complètement nus, la barbe, les cheveux hirsutes, et ils s'en vont. Pauvre humanité, alors qu'il y en a un qui est mort sur la croix de Golgotha pour ôter tes péchés. Pauvre humanité qui te dit chrétienne et nation chrétienne et qui vilipende et qui rejette la vérité de l'Évangile. Pauvre nation chrétienne qui est loin de vivre ce que Dieu a voulu. Qui prétend croire mais qui vit dans le mensonge. Qui prétend croire, mais qui t'appuie sur les sciences occultes pour réussir dans tes affaires, qui prétend croire et qui vit dans l'impureté, à la sottise et dans la violence, qui prétend croire et en même temps, avec des signes de la religion, tue son prochain, étouffé par la haine ou la vengeance ou que sais-je. Frères et sœurs, il n'y en a point qui soit moins coupable que l'autre, car nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous n'avons pas le droit de rejeter la pierre à qui que ce soit. La seule chose qui nous reste, c'est la repentance. La seule chose qui nous reste, c'est de nous humilier auprès de devant Dieu et de lui demander pardon, pardon à cause de nos péchés et à cause des péchés de nos frères. La haine, on l'entend que trop. La haine, on l'entend que trop. Avons-nous le droit de haïr notre ennemi? Avons-nous le droit de cracher sur l'ennemi? Pourquoi est-il l'ennemi, celui qui nous ressemble et qui est né comme nous? Pourquoi est-il notre ennemi, celui qui nous fait du mal et qui nous vole et qui nous tue? Pourquoi est-il l'ennemi? Et pourquoi devons-nous la haïr? En la haïssant, nous amenons la malédiction sur nous-mêmes. Jésus nous a montré l'exemple. N'a-t-il pas donné sa vie pour ses ennemis? Et n'a-t-il pas prié, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Aveuglés qu'ils sont par le péché, par la convoitise, et par des sentiments de tout genre qui les détruisent. Plus le temps passe, plus les années passent, plus je réalise combien le sacrifice du Fils de Dieu à Golgotha était une chose nécessaire, terrible, mais indispensable, car rien ne pouvait nous sauver, rien, rien, sinon le sacrifice de celui qui seul était capable de nous sauver, parce qu'en lui il n'y avait point de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Pas n'importe quel sang, mais le sang du juste. Il n'est pas venu pour verser le sang des autres, il est venu pour verser son sang afin de payer la rançon du péché. Frères et sœurs, quel est le sentiment qui vous anime ce matin? Quels sont les sentiments qui remplissent vos cœurs au milieu de tous les scandales et de toutes les choses qui se passent autour de nous même, au-delà de nos frontières? N'y a-t-il pas une peine et une souffrance terrible qui vous saisit? Je ne sais pas ce que vous pensez et comment vous le comprenez. Lorsqu'on voit toutes ces foules qui nous côtoient chaque jour, pensez-vous un instant que ces gens ne sont pas sauvés et que leurs années sont comptées et que bientôt, chacun d'entre eux, comme nous-mêmes, nous finirons quelque part, soit d'une mort naturelle, soit par la maladie, soit par la violence, d'une façon ou d'une autre, et que notre vie est très, très, très fragile. Quel que soit notre pouvoir, quelle que soit notre position, quel que soit notre argent, quelle que soit notre force, quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre bonté, quelle que soit notre méchanceté, quelle que soit notre race ou notre couleur, notre vie est fragile. Et nous vivons dans ce monde comme si nous serions toujours dans ce monde. Nous n'avons aucun contrôle sur nous-mêmes. Il n'y en a qu'un qui a le contrôle, c'est celui qui nous a créés, Jésus-Christ le Sauveur, le Dieu puissant et le Créateur. Allons-nous apprendre la sagesse? Allons-nous apprendre l'intelligence? Allons-nous nous préparer à rencontrer notre Dieu? Ou allons-nous seulement être des auditeurs chaque dimanche matin qui retournent chez soi et qui continuent le même genre de vie dans lequel il a toujours été, sans vouloir changer en quoi que ce soit? J'étais éduqué ainsi, c'est mon éducation, c'est ma culture, c'est ceci, c'est cela. Oh, que Dieu nous aide à comprendre et à devenir sage de sa sagesse, intelligent de son intelligence. Nous ne pouvons que déplorer, nous ne pouvons que pleurer, nous ne pouvons que regretter ces violences que nous voyons ici, dans notre pays. Cette discordance, cette mésentente, et que sais-je encore? Que Dieu nous secoure au milieu de tant de malheurs. Depuis déjà deux dimanches, nous parlons sur ce neuvième commandement. Ce neuvième commandement, nous avons déjà beaucoup appris à travers cet enseignement de la grâce et de la loi, pour terminer avec les 10 commandements. Et nous cheminons tout doucement, petit à petit, à travers ces commandements. Et depuis déjà deux dimanches, nous avons parlé sur ce 9e commandement. Mais alors que j'essaye de comprendre mieux et de sonder l'Écriture, je trouve encore toujours des autres choses que la Bible nous dit concernant ce 9e commandement. Pourquoi est-ce que Dieu insiste tellement, tellement sur ces vérités, sur ces commandements? Tout simplement parce que nous les avons violés et nous sommes durs à comprendre, durs à nous corriger et lents à mettre en pratique sa parole. Et c'est la raison pour laquelle il veut que nous sondions les Écritures d'une façon plus parfaite, plus entière. Ce 9e commandement, vous le savez maintenant, je l'espère, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et nous lirons encore le passage qui se trouve dans les Lévitiques au chapitre 5, à partir du verset 20. Lévitiques chapitre 5, à partir du verset 20 où il est dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant. Le mensonge, c'est une infidélité envers l'Éternel. On peut mentir à son prochain, mais en réalité, c'est une infidélité envers l'Éternel. En mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'une valeur remise en main, ou d'un vol, ou bien en commettant une extorsion envers son prochain, en niant avoir trouvé, un objet perdu ou en faisant un faux serment au sujet de l'un de tous les péchés que l'homme peut commettre. Lorsqu'il péchera ainsi, il se rendra coupable. Il rendra l'objet qu'il a volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il le restituera en sa totalité, y ajoutera un cinquième, et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira un sacrifice de culpabilité. Il amènera au sacrificateur, à cause de sa culpabilité envers l'Éternel, un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation, comme sacrifice de culpabilité. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné. Quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Voilà un passage qui nous dit beaucoup sur ce que nous appelons mentir. Je ne parle pas du gros mensonge ou du petit mensonge, mais je parle du mensonge, c'est tout. C'est-à-dire l'altération de la vérité. Mentir, ce n'est pas forcément dire que ça, c'est noir, ou de dire que cette veste est rouge. Ça, c'est évident que c'est un mensonge. Mais l'altération de la vérité, c'est quoi? C'est dire une vérité avec un mensonge dedans. C'est altérer la vérité. C'est déformer la vérité. C'est dire quelque chose qui n'est pas entièrement vrai. Quelque chose qui est déformé et qu'on a déformé pour un but caché, mais un but mauvais. Pour profiter. Le menteur, c'est un cupide. Pourquoi? Parce qu'il ment par cupidité. Il ment pour avoir quelque chose en retour. Quelque chose qui lui donnerait un profit aux dépens de l'autre, c'est toujours ainsi. Pour jouir de quelque chose duquel il n'a pas droit. Alors la vérité, elle est distordue. La vérité est changée en mensonge. La vérité est altérée. Malheureusement, dans toutes les générations, il y a toujours eu des mensonges. Malheureusement, il n'y a pas un individu dans sa vie qui, une fois ou l'autre, n'ait pas menti. Il y en a qui sont menteurs jusqu'à la racine des cheveux. Et il y en a d'autres, non, qui ont le sens de la vérité et le sens du mensonge. Mais même ceux-là ont failli, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre. Oh, je me souviens, avec mes parents quand j'étais petit, si nous mentions, et si les parents découvraient qu'il y avait eu mensonge, la punition était quintuple. Et je remercie Dieu pour cela. Le mensonge ne doit pas être admis, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les affaires, ou que ce soit. Le mensonge ne doit pas être admis. Dieu appelle ça une infidélité contre l'Éternel. Vous voyez, il est parlé là concernant une valeur remise en main, concernant un vol, ou bien une extorsion à cause d'un bénéfice qu'on va avoir en agissant de la sorte. En niant d'avoir trouvé un objet perdu, on trouve cet objet perdu, on sait à qui ça appartient, mais on se l'approprie. On dit non, c'est pas à toi, c'est à moi. mensonge, cupidité, en faisant un faux serment, un serment, je le jure par exemple, un faux serment au sujet de l'un de tous ces péchés que l'homme peut commettre, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il rendra l'objet qu'il avait volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé. Il le rendra. Combien de fois les gens qui empruntent de l'argent ne veulent pas rendre l'argent qu'ils ont emprunté. C'est une extorsion. Ils empruntent l'argent en sachant qu'ils ne vont pas rendre l'argent. Et ils prétendent ne pas vouloir, ne pas pouvoir rendre l'argent, alors qu'ils peuvent rendre l'argent. Ils sont plus de cela menteurs, voleurs. Ils accumulent le péché sur leur tête. Il leur restituera en sa totalité. Il y ajoutera un cinquième. Et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. D'accord, celui-là veut donner un sacrifice de culpabilité à cause de son péché. Mais pour cela, il faut d'abord confesser son péché. Si nous ne confessons nos péchés, il ne peut pas nous pardonner. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alors il sera fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il devait apporter, après avoir reconnu son péché, son extorsion, son vol, l'abus qu'il a manifesté vis-à-vis de son prochain, en tirant un bénéfice sur le dos de son prochain, non mérité, sur la base d'un mensonge. Oh, tu sais, je te vends ce costume pour telle somme d'argent. Mais tu sais, je perds là-dessus. Je perds. Mais enfin, parce que je t'aime, je te le vends. Oh, mais tu sais, il est quand même cher. Oh oui, d'accord, il est cher, mais tu sais, moi je l'ai payé bien plus que ça. Menteur! Tu vas faire un bénéfice sur le dos de ton prochain, mais tu es un menteur et tu es un cupide. Combien de fois ne voyons-nous pas cela dans les affaires et dans les tractations entre chrétiens? Je ne m'inquiète pas de ce que les hommes du monde font, mais que faisons-nous à notre niveau en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens? Là, il est parlé du sacrifice à cause du péché commis contre l'Éternel, mais ce sacrifice ne peut être offert que si on reconnaît sa faute. La reconnaître, c'est la confesser. C'est reconnaître ce qu'on a mal fait et rembourser, voilà, restituer, voilà, en ajoutant encore un cinquième sur la valeur, voilà. Il amènera au sacrificateur son sacrifice de culpabilité. Il amènera un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après son estimation, comme sacrifice de culpabilité. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Si le sang d'un bélier peut couvrir le péché d'un menteur qui a profité de son prochain, d'un menteur qui, à cause de son péché, a dû s'humilier en demandant pardon et en restituant et en y ajoutant 5%. Si le sang d'un bélier peut enlever le péché d'un tel homme, à plus forte raison, le sang de celui qui s'est offert pour nous sur la croix de Golgotha non seulement couvre le péché, mais ôte le péché. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devenons tellement légers dans notre façon de faire. Jésus pardonne, Seigneur pardonne-moi parce que j'ai profité injustement de tel frère ou de telle sœur. Amen, terminé. Et puis 15 jours plus tard, on recommence avec quelqu'un d'autre. Quelle légèreté! Si Dieu ne nous demande pas aujourd'hui de rembourser plus que ce que nous avons profité de l'autre et d'y ajouter 5%, ceci ne veut pas dire que le péché n'est pas moindre. Je dirais au contraire que ce péché et nous recommençons encore. Pauvres malheureux que nous sommes, légers que nous sommes. Si le sang d'un bélier pouvait effacer les péchés de ces gens qui avaient menti en profitant de leurs semblables, le sang de Jésus qui efface les péchés veut effacer nos péchés. Mes frères et sœurs, c'est encore plus grave lorsque nous piétinons le sang de la croix en regardant avec légèreté ce sacrifice qui a été accompli pour nous. J'aimerais encore parler avec vous sur ce passage qui se trouve dans les Proverbes, au chapitre 6 et au verset 16 à 19, où il est écrit: il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. L'Éternel a de la haine. Dieu n'a pas de haine contre sa créature. Il n'a pas de haine contre le méchant. Il n'a pas de haine contre le rebelle. Il n'a pas de haine contre tous ceux qui s'opposent à lui, mais avec patience, il les appelle, il leur parle par les circonstances, par beaucoup de moyens, afin qu'il de les ramener à la repentance. Mais il n'a aucune haine pour eux. Mais il a de la haine, Dieu, contre 7 choses. Quelles sont ces choses? Les yeux hautains, l'orgueil, regarde les autres du haut de sa grandeur et on méprise les autres, se pensant supérieur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, la langue menteuse, Dieu le hait. Les mains qui répandent le sang innocent, Dieu le hait. Le cœur qui médite des projets injustes, Dieu le hait. On ne voit pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Mais peut-être qu'il prépare dans son cœur des projets injustes qui consisteront à, d'une façon ou d'une autre, à te voler, à te prendre ton bien, à prendre quelque chose et à profiter de quelque chose duquel il n'a pas droit. Les machinations inconnues du cœur qui se traduisent peut-être plus tard par des actes ou qui va insinuer aux autres de porter des actes qui te rendront des avantages à toi non mérités. Le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent à courir au mal, Dieu le hait. Le faux témoin qui profère des mensonges pour la deuxième fois est celui qui déchaîne des querelles entre frères. Voilà des choses que Dieu hait. 7 choses, et dans lesquelles, dans cette liste, il y a 2 fois le mensonge sous 2 aspects exprimés dans ce passage. l'altération de la vérité. Le changement, la transformation de la réalité. L'impression qu'on donne qui est fausse par la manipulation. Le mensonge est l'altération de la vérité dans le but de tromper son prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages. Les Écritures s'opposent de manière ferme au mensonge. En aucune façon, l'Écriture n'accepte la parole menteuse. Le mensonge est associé à l'idolâtrie. Regardez ce qui est dit dans Jérémie au chapitre 10, versets 13 et 14. Lorsqu'il est parlé de Dieu, il est dit là, « À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Et s'il a décidé de faire souffler du vent à 200 ou 300 kilomètres à l'heure, il le fera. Les toits seront arrachés, les forêts déracinées, les lignes électriques complètement cassées. L'homme de science peut-être vous expliquera toutes ces choses-là. Mais si Dieu a décidé de faire lever les vagues de la mer pour envahir les côtes et raser tout ce qui se trouve sur les côtes, il le fera. S'il a décidé de faire pleuvoir sur un endroit aride tel qu'on n'a jamais fait, à tel point que la terre est saturée d'eau et que les rivières ne peuvent plus la contenir et qu'elle déborde partout, il le fera. L'homme de science va vous dire c'est à cause du réchauffement de la planète. Il va vous dire c'est à cause des courants marins qui ont changé de direction et des eaux chaudes qui s'en vont là au lieu d'aller ailleurs. Où ils vont vous dire toutes sortes de choses de ce genre. Ils vont vous prévoir des typhons terribles qui ravageront les côtes, des tornades qui arracheront tout sur leur passage. Mais ils sont incapables de les maîtriser, car il y en a un dans les cieux. Quand il a décidé de parler de cette façon, il parlera. Et aujourd'hui dans notre monde, il parle. Il parle. Les hommes essayent d'expliquer. Catastrophe naturelle, disent-ils. Moi, je dis non, surnaturelle. Parce que Dieu parle aux hommes. Tout homme devient stupide avec sa science. Voilà. Voilà ce qui est écrit dans ce Jérémie 10, 13 et 14. Tout homme est stupide dans sa science. Lui, il est dans les cieux. Il fait souffler les vents. Il envoie les tonnerres et les éclairs. Il envoie les ouragans, il les fait arrêter, il met la limite là, et ils ne vont pas plus loin. Il est le maître de toutes choses, mais tout homme devient stupide par sa science. Aussi intelligent que tu puisses être en sciences météorologiques, tout intelligent que tu puisses être dans la connaissance des vents, des marées, des typhons, spécialiste que tu es dans la science des volcans et des tremblements de terre, quand Dieu a dit que la terre tremblera, elle tremblera. Oh, ce sont les plaques continentales qui glissent les unes sur les autres et qui provoquent... D'accord, mais qui tient les plaques continentales? Il tient le monde dans sa main et rien de ce qui se passe dans ce monde se passera sans sa volonté. Vous m'entendez? Rien! Il savait d'avance. Et pourquoi l'a-t-il permis? Et pourquoi l'a-t-il voulu? Et pourquoi? Je ne sais! Mais, ô homme, quand vas-tu apprendre ce que Dieu essaye à t'enseigner? Certaines fois, il juge à travers la main des autres. Certaines fois, il envoie des armées afin de juger des peuples tout entiers. N'a-t-il pas fait cela pour Israël? Lorsque le pays de la promesse leur a été donnée. Pourquoi leur a-t-il dit, vous détruirez tout, hommes, femmes, enfants, bétail et tout? Pourquoi leur a-t-il dit, vous exterminerez tout? À cause de leurs abominations. Dieu a dit, c'est assez. Il arrive un moment donné où la coupe est pleine. Et il emploie des peuples pour juger d'autres peuples. N'a-t-il pas envoyé la Syrie contre son propre peuple d'Israël? Et quand Jérémie, inspiré par la parole de l'Éternel, leur avertissait, au nom de l'Éternel, rendez-vous aux Chaldéens et vous vivrez. Ils ont dit, c'est un saboteur. Un saboteur, il est pour l'ennemi. Il décourage le peuple. Rendez-vous et vous vivrez, mais tous ceux qui résistent, ils seront exterminés et leurs cadavres seront couchés dans les rues de Jérusalem. Il a été enfermé dans une citerne. Il a été jeté en prison. Mais son message était vrai. Et lui est sorti vivant, car le Dieu fort était avec lui. Oui, frères et sœurs, Dieu est le souverain dans les cieux, et toute ta science, et toutes tes armes, et tout ton savoir-faire, et toute ta stratégie, et tout ton argent ne sert plus à rien. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Et dans l'histoire biblique de la Bible, et dans l'histoire du monde, combien de fois Dieu n'a pas utilisé tel peuple pour juger tel autre? Combien de fois n'a-t-il pas utilisé tel homme pour juger tel autre? Combien de fois n'a-t-il pas usé telle circonstance pour juger telle nation, ou tel individu, ou telle famille, ou telle société, ou telle que sais-je encore? Jusqu'à quand allons-nous adorer les idoles et les faux dieux et les fétiches pour arriver à avoir ce que nous désirons? Au lieu d'attendre du Dieu souverain que lui-même appointe ceux qu'il a choisis pour le bien du plus grand nombre. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Tout homme devient stupide par sa science. Oh, je voudrais tant que notre peuple comprenne, je voudrais tant que notre société saisisse et qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu dans les cieux, qui tient la destinée de tout individu dans sa main et qui fait ce qu'il veut et qui décide ce qu'il veut. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Que peut faire un fétiche quand Dieu se lève et qu'il agit? Que peut faire une protection magique quand Dieu se lève et qu'il agit? Que peut faire un sorcier, un voyant, un devin, un trafiquant des puissances occultes quand Dieu a décidé de faire ce qu'il désire faire et qu'il applique sa volonté? Avec nos fétiches, nous pouvons peut-être pour un temps influencer ceci et influencer cela et avoir des avantages matériels. Car c'est toujours cela qui justifie le fétiche, pas vrai? Mais quand Dieu se lève, plus rien ne tient. Quand Dieu se lève, c'est lui qui a le dernier mot. Laissons nos fétiches, laissons nos pratiques occultes, jetons tout cela à la poubelle. Demandons pardon à Dieu. Il ne se lasse pas de pardonner et de sauver. Car il aime sa créature, même la plus méchante. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez et ne maudissez pas. Car votre Père Céleste fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Votre Père Céleste donne le repos aux bons et aux méchants pendant la nuit. Votre Père Céleste fait croître la nourriture dans les champs pour les bons comme pour les mauvais. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même. Remettez tout entre les mains de votre Père Céleste. Et lui vous rendra justice au moment convenable. Le moment convenable n'est pas forcément mon moment à moi. Voilà. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée et de ses fétiches. Car ses idoles ne sont que mensonges. Voilà! Ses fétiches ne sont que mensonges. Ses diseurs de bonne aventure ne sont que mensonges. Ses charlatans ne sont que mensonges. Ces prétendus marabouts qui connaissent tout et qui vous prédisent ce qu'il faut faire, ce sont que mensonges. Ces astrologues ne sont que mensonges. Cessez de croire dans ces choses-là. S'il a décidé, il a décidé. Et bientôt, ce Dieu puissant qui est dans les cieux se lèvera pour juger le monde. Ne le repoussez pas. Le mensonge dans la parole de Dieu est associé aussi avec le rejet de Christ, le Messie. 1 Jean 2, 22, il est dit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Celui qui nie que Jésus est le Christ est un menteur, c'est-à-dire que Jésus est le Messie. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Nous voyons dans la parole de Dieu bien des fois que Dieu a sévi très sévèrement contre les menteurs. J'aimerais citer un exemple de l'Ancien Testament, un exemple du Nouveau Testament. Le prophète Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Il était venu du pays des Syriens, un grand général syrien, Naaman, connu dans toute la Syrie, très puissant, qui avait de grandes... Dieu, l'Éternel l'avait utilisé, c'est ce qui est dit, pour gagner de grandes batailles au nom de son maître, le roi de Syrie. Mais il était lépreux. Tout un processus s'est fait dans la vie d'un Naaman. Il était guéri de sa lèpre. Beaucoup de choses sont à dire sur lui, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse particulièrement maintenant, c'est plutôt Géasi. Naaman était venu avec de grandes richesses et de grands biens. Il a retrouvé la santé et la lèpre a disparu. Il s'est humilié, il a reconnu le Dieu d'Israël comme étant le vrai Dieu. Il a demandé, donne-moi de la terre d'Israël et avec ça je vais faire un autel où je vais offrir des sacrifices à l'Éternel, ton Dieu. Il l'a reconnu comme étant le seul Dieu puissant et vrai. Et il a dit à Élisée, tiens, voilà des richesses pour toi, de l'or, de l'argent, des vêtements. Et Élisée a dit, non, je n'en veux pas. Le Dieu d'Israël ne fait pas payer ses grâces. Alléluia. C'était un homme qui avait grandi dans le paganisme, adoré les idoles, qui demande toujours encore, donne. Maintenant, le Dieu d'Israël l'a guéri. Et le Dieu d'Israël dit, non, garde tes richesses, je ne suis pas un Dieu d'argent. Ce n'est pas qu'Élie n'avait pas besoin pour ses écoles bibliques, l'école des prophètes. Il en avait besoin, certes, mais il ne veut pas que cet homme qui a encore besoin d'être enseigné pense que le Dieu d'Israël est comme les dieux païens auxquels il faut donner pour avoir quelque chose. On n'achète pas les grâces de Dieu. On donne à Dieu par amour pour lui, mais ce n'est pas pour acheter une grâce. Vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes pour mériter quelque chose. Aucun d'entre nous, nous ne méritons quoi que ce soit. Alors Naaman est parti avec toutes ses richesses. Mais lorsque Géasi a entendu cela, il a dit, il faut que j'aie quelque chose de ce Syrien. Et il a couru derrière le char. Sûrement qu'il a couru assez vite. Je ne crois pas que le char marchait très vite, non. La route était très longue et puis ils économisaient leurs chevaux. Le char était confortable. Le cocher de Naaman conduisait le cheval et il se laissait aller avec ses soldats. Et subitement, il se retourne, il voit Géasi qui court derrière. Il donne l'ordre d'arrêter le char. Naaman, le grand Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, descend de son char et s'approche de Géasi, le serviteur, le boy d'Élisée. Ah, Naaman a changé d'attitude. L'orgueil s'est fini avec lui. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Alors Géasi commence à raconter son histoire. Oui, Élisée, le prophète, m'a envoyé pour te dire, il y a deux jeunes gens qui viennent de descendre de la montagne d'Éphraïm. Et tu sais, ils sont dans le besoin. Hein, ce sont des jeunes de l'école biblique, ils n'ont pas de, ils peuvent pas payer leur minerval et tout ça. Alors, tu vois, hein, ils n'ont pas grand-chose. Et toi, tu as tellement de richesses, alors s'il te plaît, ils demandent si tu ne peux pas donner deux vêtements de rechange et un cycle d'argent. Oh, Naaman dit, mais c'est rien que ça, pas de problème. Il donne deux cycles d'argent et quatre vêtements de rechange. Le double. Allez, au revoir, que l'Éternel te bénisse. Et il reprend sa route. Géasi prend ça. Oui, aïe, aïe, j'ai le double. Il arrive à la colline où se trouvait la maison d'Élisée. Il monte la colline et il cache ça quelque part dans sa maison. Et il se présente devant son maître Élie. Élisée lui dit, mais d'où viens-tu, Naaman? Oh, ton serviteur est allé nulle part. Ah bon? Vous voyez, un mensonge entraîne un autre mensonge. Avec la cupidité, avec l'égoïsme, avec la déconsidération de la sainteté de Dieu et de la place où il est, serviteur de l'homme de Dieu, du prophète de l'Éternel. Élisée lui répond, mon esprit n'est-il pas allé avec toi et n'a-t-il pas vu cet homme se retourner sur son char? Est-ce le temps de chercher des maisons et des oliviers et des propriétés et des choses de cette terre? La lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et la réalité de ce qui était dans son cœur apparut à l'extérieur, couvert de lèpre. Beaucoup de gens ne sont pas lépreux quant à l'aspect physique, mais qu'en est-il au fond du cœur? Qu'est-ce que c'est la lèpre? C'est le symbole du péché. Et il se retira de devant son maître, couvert de lèpre. Vous connaissez le cas de Ananias et de Saphira. Il y avait un grand réveil à Jérusalem. De grandes foules venaient et l'Esprit travaillait dans les cœurs. Beaucoup donnaient ce qu'ils avaient afin d'aider les pauvres et les malheureux. Ils avaient fait une caisse où il y avait une assistance sociale pour tous les nécessiteux. Et tout le monde donnait. Ananias et Saphira avaient quelques biens. Et tout le monde savait qu'ils avaient quelques biens. Et ils se sont dit l'un à l'autre. En tout cas, ceci nous oblige de faire quelque chose à nous aussi. Tout le monde fait quelque chose. Ah, déjà la motivation est mauvaise. Les autres font, alors je dois le faire. Ils ne le font pas par amour. Mais ils le font à cause d'eux-mêmes par motivation égoïste. Au départ, c'est faux. Un péché engendre toujours un autre. Et ils ont dit, voilà, nous allons vendre ce champ. Il ne nous sert pas à grand-chose. Dans le fond, on peut très bien le vendre et apporter l'argent. Mais attention, coupons par la moitié. Au lieu de donner toute la somme, on va donner que la moitié de la somme. Libre à eux, c'est à eux, ils peuvent le faire et Dieu n'est pas là contre. Mais la subtilité du mensonge, ils sont venus en disant, Pierre, voilà tout l'argent du champ que nous avons vendu pour aider le travail de Dieu. Vérité et mensonge mélangés ensemble. Vous allez me dire, mais c'est peu de choses cela. Pierre, tu peux être content, il y a des grands besoins, au moins ils donnent quelque chose. Ils ont donné le 50% au lieu de donner le 100%. Or, Dieu ne demande que le 10%. Il y a beaucoup de gens qui font les calculs comme ça. D'accord, quand tu donnes le 10%, tu donnes ton 10% et tu dis, voilà, c'est ma dîme. Mais quand tu donnes 10% et que tu dis, c'est tout ce que j'ai, je le donne, tu deviens un menteur. Eux ont donné le 50% Et ils ont dit, voilà, c'est tout. C'est le prix du champ. Dieu a parlé dans notre cœur, le Saint-Esprit nous a parlé, parce qu'on a toujours le langage de Canaan dans la bouche, même quand on veut pécher. Voilà, Dieu a parlé dans nos cœurs, le Saint-Esprit nous a convaincus, nous avons vendu le champ, voilà l'argent du champ. Et Pierre leur a dit, comment se fait-il que vous vous êtes concertés l'un l'autre pour mentir au Saint-Esprit? N'avez-vous pas retenu toute la somme? Libre à vous de retenir ce que vous voulez. Mais pourquoi faire croire que vous avez tout donné alors que vous n'avez pas tout donné? Ah, menteur! Est-ce que nous ne sommes pas coupables de tels mensonges, trop souvent nous-mêmes? Dites-moi, mes amis, nous voulons faire croire aux autres que nous sommes tellement généreux, tellement bons, tellement désintéressés, tellement bons, tellement spirituels, alors que nous cachons la moitié, alors que nous calculons. Et les deux tombèrent morts. Qui vous a appris à mentir contre le Saint-Esprit? Ce n'est pas contre moi, Pierre, que vous avez menti, mais c'est contre l'Esprit de Dieu. Si Dieu agissait comme cela aujourd'hui, combien de personnes resteraient à l'église de la borne? Dieu a donné un exemple, frères et sœurs. Un exemple, comme quoi il jugerait, et que c'était une grave faute que de mentir au Saint-Esprit. Apocalypse 21, verset 8, il est dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Vous voyez? Les lâches, les idolâtres, les fétichères et compagnie, les abominables, les meurtriers, les impudiques, adultères et autres, les enchanteurs, encore les sciences occultes, et tous les menteurs, vous m'entendez? Leur part sera dans le temps ardent de feu de soufre qui est la seconde mort. Et Apocalypse 22, versets 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que leurs robes étaient sales, leur corps était sale, ils étaient en haillons. Voilà ce que nous étions tous. Mais heureux celui qui lave sa robe, heureux celui qui lave son cœur et sa vie tout entière dans le sang versé à Golgotha pour ses péchés. Blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Quel est l'état de ta robe? Chaque jour, tu as besoin de revenir au pied de la croix, sur les routes que nous parcourons, les routes boueuses et chaotiques de ce monde. La boue nous éclabousse combien de fois, et nous avons besoin de revenir au Père. Seigneur, s'il te plaît, lave mon cœur, lave ma robe tout à nouveau. J'ai été éclaboussé cette semaine par ce que j'ai vu. J'ai été éclaboussé cette semaine par ce que j'ai entendu. Seigneur, lave-moi encore. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville, cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais il est dit, dehors les chiens. Qui sont les chiens? Ce sont les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu les appelle des chiens, dehors. Vous allez me dire, mais c'est une insulte ça. Traiter quelqu'un de chien, mais savez-vous pas qu'il y a des gens qui se construisent exactement comme des chiens, même pire? Le chien, il agit comme il agit par instinct. L'animal, il agit comme il agit par instinct. Mais l'homme, il a le choix, et le libre choix de la décision. Il ment. Il est idolâtre. Il est impudique. Coureur de femmes, coureur de garçons. Il est meurtrier, il tue. Il tue de différentes façons, il verse le sang. Dehors, dit Dieu, ceux-là n'ont pas de place chez moi. Peut-être que tu es un de ceux-là. Peut-être que tu es un impudique, un menteur. Peut-être que tu es un enchanteur, un féticheur et un sorcier. Peut-être que tu es un idolâtre. Peut-être que tu es un meurtrier. Tu veux rentrer dans la ville? Il y a encore possibilité. Repends-toi. Baissons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets la repentance dans les cœurs ce matin. Une vraie repentance, ô Dieu, afin que tous ceux qui sont ici présents et tous ceux qui écoutent à travers les médias d'une façon ou d'une autre, Seigneur, ne soient pas traités de chiens, mais qu'ils soient et qu'ils deviennent tes enfants, revêtus d'une robe lavée dans le sang, d'une robe pure. Et Seigneur, qui rentre par les portes dans la ville. Seigneur, je t'en supplie, par ton esprit travaille dans les cœurs, par ton esprit convainc de péché, par ton esprit brise le cœur dur et résistant, par ton esprit brise les raisonnements faux qu'on a tout le temps pour s'excuser de son péché. Brise, Seigneur, et que sans explication, on vienne à toi, sans explication, ou de vouloir se justifier, on vienne à toi et qu'on crie dans les larmes, Seigneur, sauve-moi. Qui veut dire cette prière aujourd'hui? Qu'il se lève là où il est. Qu'il se lève là où il est. Menteur, impudique, idolâtre, enchanteur, lié par ses passions et ses désirs. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres encore? Nous ne sommes pas au tribunal ici. Ce n'est pas nous qui jugeons. Mais nous, ce que nous cherchons à faire, c'est de vous faire échapper au jugement. Voilà la différence. Nous ne sommes pas là pour mettre le doigt sur vous et vous pointer, car nous avons tous passé par ce chemin-là. Mais c'est pour vous appeler à la repentance, à l'humiliation, au brisement. Seigneur, sauve-moi! Et vous qui écoutez sur les médias, à la radio ou à la télévision, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne méprisez pas cette parole. Dieu appelle des chiens, les menteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, les enchanteurs. Ils disent, ils n'entreront pas dans ma ville. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui se lèvent ici et de ceux qui écoutent à travers les médias et qui ont pris une décision maintenant. Car je sais qu'il y en a qui prennent des décisions, Seigneur. Je l'ai déjà entendu de quelques-uns et je te bénis pour cela. Et il y en a d'autres que nous ne savons pas, Seigneur, ce que tu as fait en eux. Mais peu importe, toi, c'est important que tu le saches, nous, ce n'est pas important. Nous ne sommes pas là pour nous glorifier, Seigneur, mais nous sommes là pour faire savoir tes exigences. Seigneur, fais rentrer tous ceux-là qui se sont levés, tous ceux-là qui ont écouté aujourd'hui à travers les médias. Fais-les rentrer, Seigneur, par la porte dans la ville, cette ville dans laquelle bientôt nous entrerons à cause de Golgotha, à cause de ton sang, avec une robe lavée et purifiée. Jésus, Jésus, nous avons soif de toi et nous voulons la vie. Donne la vie, Seigneur, dans notre peuple. Le pardon brise la résistance des cœurs et donne le salut qui est un don gratuit. Asseyez-vous, frères et sœurs. Un don gratuit. Allons-nous rejeter un si grand don? Prions pour les offrandes et les dîmes. Seigneur, nous mettons devant toi nos dîmes et nos offrandes. Qu'elle te soit agréable à l'expression de cœur touché et sanctifié par ta parole. Seigneur, ta parole seule est capable de nous changer, de nous transformer. Père céleste, pourvois aux besoins de chacun de ceux qui donnent, dans leur pauvreté, bien souvent dans leurs besoins eux-mêmes. Seigneur, que cet argent ne leur manque pas. Tu sais combien ton Église a besoin de leur soutien, de leur aide. Seigneur, non pas pour s'enrichir, mais pour répandre ce message, pour répandre autour de nous. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Seigneur, mais nous savons qu'avec toi, les temps sont merveilleux parce que tu es toujours avec nous. Toujours. Et nous n'avons rien à craindre avec un si grand sauveur. Merci.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.